L'aveu de l'Amérique.
Jacques Aristide, dans la capitale américaine, ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. Cette semaine, Washington Forum se penche sur l'accord annoncé entre le Nigeria et Boko Haram.
Y aura-t-il vraiment un cessez-le-feu? Les collégiennes de Chibok seront-elles enfin libérées? Et oui, pour l'heure, plus d'interrogations et de doutes que du concret après le fameux pacte conclu décryptage.
Washington Forum.
Bienvenue et mille merci de votre fidélité à Washington Forum que vous propose la VOA. Nos invités vont nous décortiquer le sujet dans un instant, mais d'emblée, le gros plan de Nicolas Pineau sur la confusion qui règne autour de l'accord entre Abuja et Boko Haram.
Un nouvel espoir ou une désillusion, les Nigérians se posent la question près d'une semaine après l'annonce du cessez-le-feu. Depuis 5 ans et le début de l'insurrection sanguinaire de Boko Haram, Abuja a multiplié les effets d'annonce concernant le groupe terroriste. Cette fois-ci, la piste semble plus crédible. Le Tchad a même confirmé 2 rencontres tenues à N'Djamena en septembre dernier.
Un accord de cessez-le-feu a été conclu entre le gouvernement fédéral du Nigeria et Boko Haram. J'ai instruit par conséquent tous les chefs de service de se conformer immédiatement à cet accord sur le terrain.
Pour l'heure, les faits contredisent le chef d'état-major de l'armée nigériane. Sur le terrain, des accrochages violents ont encore eu lieu près de la frontière camerounaise à Damboa, dans la région d'Alagarno. Autre fait troublant, le membre de Boko Haram qui a revendiqué cet accord depuis Jeddah en Arabie Saoudite n'est pas connu dans le commandement du groupe terroriste. Autant d'éléments qui rendent sceptiques jusque dans les rues de Lagos.
Comment êtes-vous sûr que ces gens vont vraiment respecter le cessez-le-feu? Êtes-vous sûr qu'ils ne vont pas vous décevoir? Quels sont les détails de l'accord? Pourquoi ne pas les rendre publics? Qu'est-ce qu'ils demandent exactement?
Une nouvelle rencontre pourrait avoir lieu prochainement au Tchad pour discuter du sort des 260 lycéennes de Chibok. Annoncée à tort comme imminente la semaine dernière, leur libération apparaît bien incertaine. En vue des élections présidentielles de 2015 au Nigeria, le retour sain et sauf de ces jeunes filles serait une aubaine pour Goodluck Jonathan ou un terrible aveu d'impuissance s'il n'y a pas d'accord. Nicolas Pineau, Washington, la voix de l'Amérique.
Merci bien Nicolas. L'heure d'entrer dans le vif du sujet avec nos invités. Dans le nord du Nigeria, le docteur Hudu Abdullahi Ayuba, professeur de sciences politiques et relations internationales à l'université Ahmadu Bello de Zaria dans l'état de Kaduna. Également au Nigeria, mais à Abuja, Anne Luc, la correspondante de la VOA pour l'Afrique de l'Ouest, qui nous rejoint via Skype. Et avec moi, sur ce plateau, Léo Keyen, le chef du service Aoussa de la VOA. Professeur Ayuba, évidemment, je vais commencer avec vous. La nouvelle a donc fait l'effet d'une bombe vendredi 17 octobre. Mais même après l'annonce de l'accord, les attaques se sont poursuivies à Abadam, par exemple, ville du nord de l'état de Borno, où des membres présumés de Boko Haram ont tué au moins 30 personnes et mis en fuite de centaines d'autres vers le Niger voisin. De nouveaux kidnappings sont également attribués au groupe terroriste qui aurait enlevé des dizaines de femmes et de filles dans 2 villages d'Adamawa au lendemain de l'accord. Trêve, mais quelle trêve, comme diraient des Nigérians. Professeur Ayuba, pratiquement une semaine après, le doute et le scepticisme ont-ils davantage gagné du terrain au Nigeria à propos de cet accord?
Oui, c'est vrai que quand on a appris qu'il y a eu un accord entre le gouvernement et Boko Haram, on était soulagés. Mais rien ne se passe. Boko Haram continue ses attaques après l'annonce de l'accord. Et on se demande si l'accord a été signé avec le vrai Boko Haram, parce qu'il semble qu'il y en a plusieurs maintenant.
Justement, on va revenir sur cette question tout à l'heure, professeur. L'accord prévoyait également la libération des collégiennes de Chibok, N'Djamena qui a joué le rôle de médiateur, laissait même entendre que les captives allaient être libérées mardi. Mais nous sommes aujourd'hui jeudi et toujours pas de nouvelles de libération. Que pouvez-vous nous dire ce jeudi soir, Anne?
Oui, il paraît que Boko Haram s'est mis d'accord en principe, mais ça reste des détails à faire, à gérer. Alors, ce que les deux parties nous disent, c'est qu'eux, ils attendent le Tchad. Le Tchad, en tant que médiateur, doivent organiser des rencontres. Les dernières infos qu'on a sont que la délégation de Boko Haram va rencontrer les Tchadiennes vendredi à N'Djamena, et puis après que les représentants du gouvernement du Nigeria sont attendus à N'Djamena lundi pour que les discussions, les négociations puissent commencer. Ces informations nous viennent de l'homme qui se dit représentant de Boko Haram et qui parle avec le service Hausa de la Voix de l'Amérique.
Alors, plusieurs médias, dont la VOA, ont rapporté vendredi que les pourparlers entre le gouvernement nigérian et Boko Haram étaient encadrés par le président tchadien Idriss Déby et de hauts responsables camerounais. Léo Kayen, pourquoi Idriss Déby peut-il vraiment amener les deux parties à s'entendre?
Il y a trois choses ici. Parce que d'abord, tu vois que les Boko Haram n'ont pas de confiance quoi, au gouvernement nigérian. C'est-à-dire, il veut être dans un coin qu'on peut discuter franchement. Deuxièmement, tu sais que M. Idriss Déby a beaucoup d'expérience quoi, avec des militants. Et troisièmement, le Tchad aussi, il a besoin du pays quoi. En tout cas, c'est les régions qui sont besoin de payer de tout. Oui.
Oui, alors faire confiance au gouvernement nigérian, mais en même temps, peut-on aussi faire confiance à un groupe islamiste comme Boko Haram? Alors, cette question, évidemment, on va revenir là-dessus. Donc, par le passé, le régime tchadien a été accusé par des opposants de collusion avec le groupe islamiste. Professeur Ayouba, au Nigeria, comment percevez-vous le rôle d'N'Djamena dans ces récents développements?
Oui, on n'est pas surpris. On n'est pas surpris parce que dernièrement, le négociateur australien avait accusé l'ancien gouverneur de Borno, de l'État de Borno, Modu Sherif, d'être l'un des sponsors de Boko Haram. Et lors de la visite du président Goodluck Jonathan à N'Djamena, c'était le mois dernier, hein, je pense. Ouais. Il se trouve que on l'a vu avec Modu Sherif dans une réunion avec le président tchadien. Donc, vous voyez, pour nous, c'est pas, ça confirme les soupçons qu'on avait envers cette personnalité. Et voilà que maintenant, le président Idriss Déby intervient dans cet accord entre Boko Haram et le gouvernement. Donc, on se demande un peu depuis très longtemps, depuis d'abord le début de cette affaire-là, si le Tchad n'était pas derrière une faction, parce que maintenant, on sait qu'il y a plusieurs Boko Haram.
Hein. Voilà.
Faction, oui. C'est Boko Haram.
En même temps, professeur,
c'est un peu confus.
Oui, et en même temps, beaucoup de Nigérians s'interrogent sur les modalités de l'accord et sur ce que Boko Haram pourrait obtenir en contrepartie. Anne, y a-t-il des éléments de réponse à ces questions?
Tout ce que le gouvernement du Nigeria me dit ici, c'est que tout est sur la table. Est-ce que ça veut dire échanger des prisonniers, payer un rançon? Ça, on ne sait pas. Mais il faut dire que cet accord de libération doit être accompagné par d'autres mesures. Un cessez-le-feu, un processus de paix, minimum peut-être un promis de la part de Boko Haram qui ne vont plus enlever des filles.
Alors parlons de l'homme qui s'est présenté comme l'émissaire de Boko Haram. Danladi Amadou affirme être le secrétaire général du mouvement, mais il est contesté. Ahmad Salkida, un journaliste nigérian qui se dit en contact avec ses dirigeants, écrit que Danladi Amadou ne fait pas partie du commandement de Boko Haram et ne parle pas en leur nom. Léo Kayen, qui est Danladi Amadou et quel est son rôle réel?
Réel, moi je ne sais pas si c'est réel, mais croyable peut-être, parce que c'est lui qui a dit qu'il serait le 16 le feu là. Et ça a déjà passé. C'est lui aussi qui nous a dit qu'il y aura un rendez-vous à Tchad, non?
Oui.
Ça,
Anne l'a évoqué tout à l'heure.
Anne l'a évoqué ça maintenant. Bon, moi je ne sais pas si il y a quelqu'un qui est croyable dans le Boko Haram, même dans le gouvernement nigérien maintenant. Mm-hmm. Bon, c'est débattable, quoi.
Absolument. Alors, ouais. Professeur Ayouba, si Boko Haram voulait déclarer une trêve, pensez-vous que cela viendrait avant tout de leur chef, Aboubakar Shekau?
Aboubakar Shekau, on ne sait pas. Bon, ça fait, je pense, la troisième fois que l'armée dit que Ibrahim Shekau est mort. Mmh. Mais je ne pense pas que cet individu est prêt à négocier avec le gouvernement. Bon, il a dit. D'ailleurs, le gouvernement lui-même avait dit qu'il n'allait pas négocier avec Boko Haram. Et là, on voit que cet accord, ce n'est pas avec Shekau, parce qu'il y a eu des attaques dernièrement. Bon, 60 personnes ont été kidnappées récemment. Donc, je pense pas que le gouvernement ait des contacts avec Shekau, s'il est vivant ou si c'est qui est même Shekau, parce que maintenant c'est un peu confus, quoi.
Voilà, confus, confusion, doute. Et en même temps, Léo, que dire de la déclaration contradictoire du porte-parole des services de sécurité qui a affirmé le même vendredi qu'aucun accord n'avait encore été conclu?
Donc, on ne peut pas parler de ça maintenant parce qu'il y a déjà, on a fixé les dates et le rendez-vous à Tchad, non?
Oui. Mais en même temps, les gens se posent beaucoup de questions sur. Alors, peut-être, Anne-La, puisque de nouvelles attaques et enlèvements sont imputés à Boko Haram, l'armée nigériane compte-t-elle revenir sur ses directives de cesser le feu?
Ce n'est pas quelque chose que j'entends à Abuja, mais ce que j'entends des forces militaires au nord-est, c'est qu'eux, ils ne vont pas se laisser faire. Ils disent qu'ils sont prêts à se défendre. On l'a vu dimanche à Damboa, quand l'armée dit qu'ils ont été attaqués par les hommes armés, des militants peut-être, et eux, ils ont riposté.
Alors, l'heure de marquer une petite pause avant de revenir sur Boko Haram. Mais puisque nous parlons du Nigeria, au moins une bonne nouvelle cette semaine, car le pays a pu vaincre Ebola, tout comme le Sénégal. Mais l'épidémie est loin d'être éradiquée, d'où ce message d'intérêt public.
Ebola est une maladie très sérieuse, très grave et une maladie mortelle. C'est une maladie qui n'a pas été inventé par les Occidentaux, exterminer la population africaine. Nous avons toujours vécu avec les virus. Ça fait partie de l'écosystème du monde depuis toujours. Les virus ne discriminent pas contre toutes les races. Donc, il faudrait absolument terrasser ce mythe. Les Occidentaux sont les premiers à se sacrifier, à mettre à la disposition du monde entier les ressources qu'il faut pour lutter contre les maladies. Il n'y a pas de vaccin contre l'Ebola. Il n'y a que la prévention.
Jacques Aristide, de retour avec vous dans Washington Forum. Plein feu sur ce qui est présenté comme un accord entre le gouvernement nigérian et Boko Haram. Nos invités à Abuja, la correspondante de la VOA, Anne Luc, à Zaria, dans le nord du Nigeria, le professeur Houdou Abdoulaye Ayouba, et à Washington, Léo Keyen, chef du service Aoussa de la VOA. Nous allons les retrouver dans peu de temps. Pour l'heure, 4 commentaires Facebook. Samuel Madi Sembaï de N'Djamena, Boko Haram, c'est la mafia à la recherche d'argent pour acheter des armes. Ibrahim Aïssa Diallo de Conakry, aucun accord de cessez-le-feu n'est tenable sans désarmement. Gisèle Kassongui du Bénin, que donne le gouvernement en échange? Boko Haram veut gagner du temps pour une autre action plus grande. Les cessez-le-feu en Afrique sont ce qu'ils sont. Suivez mon regard. Eglon Makassi de Goma, RDC, signer des accords avec Boko Haram est la pire erreur du siècle. Ce sont des terroristes, il faut les juger, pas les caresser. Nous vous le disions, le sort des écolières de Chibok demeure incertain, mais ce rapt massif ne représente qu'une partie des kidnappings d'enfants et de jeunes hommes perpétrés par Boko Haram depuis le début de l'insurrection en 2009. Anne, vous êtes partie à la rencontre de quelques-unes des familles des victimes à Gombe dans le nord-est du Nigeria et vous nous avez rapporté ce reportage.
Boko Haram s'est emparé des deux fils de Hadja Hafsa Touboubé, des adolescents. Il faisait partie d'une vingtaine d'hommes qu'elle a vus rassemblés par les milices lorsque celle-ci a pris la ville de Gwoza, il y a presque deux mois.
Je les ai suppliés, laissez ces garçons, ce sont des étudiants, ils vont à l'école islamique. Ils ont dit, mais c'est ce que nous voulons qu'ils aillent également dans notre école coranique.
Notre mère est effondrée, leur fils n'avait pas le choix. De nouveaux quartiers ont vu le jour à Gombe. Et les déplacés du nord-est du Nigeria s'y entassent. Certains vivent dans un camp géré par l'État. Abdourahman Moussa s'est caché lorsque des militants ont pris la localité de Michika en septembre.
Ils allaient de maison en maison à la recherche d'hommes robustes. Quand ils sont venus, je me suis précipité vers la porte de derrière et je me suis échappé.
C'est alors qu'il a vu des corps décapités. Cet homme a vu Boko Haram prendre quatre de ses neveux, des agriculteurs et des pères de famille, et non des combattants, selon lui. Mais ceux qui résistent sont tués. Selon des activistes, Boko Haram oblige des nouveaux recrues à aller devant lors de ses raids, les transformant en boucliers humains.
Je n'ai plus aucun espoir. Nous sommes sans nouvelles depuis trois mois, depuis qu'ils sont partis. Je ne pense pas que nous allons les revoir. Nous nous en remettons à Dieu.
Un grand nombre de ces déplacés sont originaires de Damboa, une ville dévastée par Boko Haram en juillet. Tout au long de l'année, dans l'état de Borno, des militants ont incendié, pillé, enlevé des adolescentes, tuant des hommes ou les enrôlant de force. Les balles sifflaient autour de moi pendant que je courais, affirme Dunia Wanagu Talala, qui explique avoir été poursuivi par les militants à moto.
Je tenais même la main de mes enfants et ils ont dit « Laisse-nous, ils ne cherchent que des hommes, pas des femmes. Les femmes, ils ne les tuent pas. Seulement les hommes. Même un petit garçon, s'ils mettent la main dessus, ils le tueront. »
Sa femme, Zainab, nous amène jusqu'à leur fille. Des hommes ont essayé de prendre Falmata, la plus âgée. Ils ont fouillé la maison à la recherche de son père. La petite, âgée de 15 ans, a menti. Elle a dit servir de mère et père à tous ses frères et sœurs.
Je tremblais, j'avais tellement peur. Mon cœur battait à la chamade. Je tremblais partout. Quand ils l'ont remarqué, ils m'ont dit de me calmer. Et puisque votre père est mort, on vous laisse. Ils ont dit qu'en fait, ils laisseraient des hommes pour nous garder. Personne ne vous touchera.
Sa mère s'était rendue dans un village de voisinage ce jour-là. À l'aube du lendemain, Falmata et ses frères et sœurs ont pris la fuite. L'armée affirme avoir repris Damboa. Mais des hommes armés ont attaqué la localité à nouveau dimanche. Les gens attendent que la sécurité s'améliore. Anne Locke, La Voix de l'Amérique. Gombe, Nigeria.
Souffrance des habitants du Nord. Voilà, enlèvement, attaque, attentat. Boko Haram s'est montré encore plus violent depuis le début de l'année. Un bilan fait état de plus de 10 000 morts depuis 2009. Professeur Ayouba, pourquoi en dépit du déploiement de l'armée, le président Goodluck Jonathan n'est-il pas parvenu à annihiler ce groupe ? Malheureusement, on a perdu le contact avec le professeur pour le moment. J'espère que nous allons pouvoir rétablir le contact avec le professeur. Alors, peut-être là, Léo, donc je posais cette question au professeur Ayouba. L'armée a été déployée et jusqu'à maintenant, le gouvernement, l'armée n'arrive pas à détruire ce groupe.
Il y a beaucoup de problèmes avec l'armée nigériane, quoi. Tu vois, il y a de la corruption. C'est-à-dire qu'on n'a pas, des armes qu'on achetait pour les soldats. Vraiment, si vous voulez savoir ce qui se passe là-bas, il faut entrer dans un encrasement quoi, des armées. Il n'y a pas de tanks, il n'y a pas de voitures, il n'y a rien, vraiment. Donc je ne sais pas comment est-ce qu'on peut combattre contre Boko Haram.
Oui, en même temps, Léo, beaucoup d'observateurs s'interrogent sur le timing de cet accord qui intervient au moment où Goodluck Jonathan s'apprête à confirmer sa candidature à la présidentielle de l'an prochain. Le chef de l'État, dont la gestion de l'enlèvement des filles de Chibok a été critiquée par les Nigérians, évidemment. Ouais. Mais Léo, si le pacte n'est qu'un effet d'annonce, sans aboutir à rien de concret, serait-il désastreux pour Goodluck Jonathan, vraiment, avoir l'effet contraire?
Ça sera vraiment un désastre pour lui, parce que, bon, comment on dit sur les filles de Chibok? Qu'est-ce qu'on va dire sur les batailles avec les Boko Haram et ceux qui sont morts? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il y a toujours des cases de politique ici. C'est l'année d'élection, et on a dit que peut-être c'est plus qu'il veut rentrer comme le président quand on fait ça maintenant.
Mais en tout cas, avec tout ce qui se passe, si l'accord n'aboutit pas, donc vous dites que ça va être évidemment difficile pour lui. Ça risque d'être une campagne très difficile.
Vraiment, ça sera trop difficile pour lui.
Alors, des médias ont rapporté par le passé qu'au moins quelques-unes des filles de Chibok ont été emmenées dans des pays voisins et que certaines ont été contraintes de marier leur ravisseur. Une vidéo de Boko Haram en mai montrait deux des captives expliquant pourquoi elles s'étaient converties du christianisme à l'islam. Anne, est-il vraiment possible de savoir si ces filles sont toujours en vie, du moins saines et sauves?
C'est ce qu'on entend de ce Danladi Amadou, mais c'est impossible de le confirmer. Et certaines s'apprêtent déjà pour le pire, que par exemple qu'on trouverait des filles qui sont mortes suite aux maladies qu'ils ont attrapées en brousse, ou bien qu'on trouverait des filles qui ont été violées, soi-disant mariées.
Alors, un mot, Anne, sur le chef de Boko Haram, Aboubakar Shekau. On parlait de lui tout à l'heure. Alors, il a été donné pour mort plus d'une fois par l'armée nigériane, qui a également évoqué l'idée d'un imposteur. Mais cela peine à convaincre les Nigérians et la communauté internationale. Anne, au Nigeria, donc, que pensent les Nigérians de cet homme que nous voyons s'agiter dans les nombreuses vidéos de Boko Haram? Est-ce bien Aboubakar Shekau? Est-il encore en vie?
Mais il y a plusieurs théories. Il y a des gens qui disent que, en fait, le vrai Aboubakar Shekau a été tué en 2008-2009 et que maintenant, on voit que c'est un deuxième Aboubakar Shekau. Il y a des autres, surtout les forces de sécurité, les forces du Nigeria, qui disent qu'en fait, il y a plusieurs Shekau qui apparaissent dans les vidéos. En fait, ce sont des hommes différents dans les vidéos. Alors, c'est impossible à savoir, mais il reste une certaine continuité dans ce qu'il dit dans les vidéos. Alors, on peut dire peut-être, même si ce n'est pas la même personne, c'est peut-être la même mentalité.
Et cet accord, oui, Léo?
Oui, Marc, on m'a dit aussi que Aboubakar Shekau, ce n'est pas une personne maintenant, c'est un homme. Ce n'est pas une personne, c'est un titre, quoi.
Bon. Un homme mystérieux à plusieurs visages. Alors, Anne, l'accord lui-même, enfin, si vraiment il est d'accord, peut-il aussi ne pas tenir en raison du fait que Boko Haram serait aujourd'hui un groupe fracturé avec de multiples chefs? Y a-t-il réellement des factions pour la paix et d'autres contre? Le professeur l'évoquait tout à l'heure. Voilà, petit problème technique. Nous allons essayer de retrouver Anne. Et peut-être cette même question à vous. Alors, Anne, je ne sais pas si vous m'avez entendu.
Oui, c'est toujours une possibilité. Mais il faut dire aussi que depuis ces derniers 6 mois, 12 mois, on a vu une... Oui, je vous ai entendu. J'ai dit que c'est toujours une possibilité.
Oui, continuez, Anne.
Ah, pardon. Je dis que c'est toujours une possibilité, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que depuis ces dernières 6 mois, 12 mois, on a vu aussi sur le terrain au nord-est du Nigeria une vraie coordination, une vraie stratégie de la part des combattants. Ils ont pris des routes, des ponts, des villages, des districts. Ils ont conquéré le territoire, ils ont encerclé la capitale de l'État. Alors ça aussi, ça montre qu'il y a une chaîne de commandement qui est peut-être toujours assez forte et assez intacte.
Anne, quel est le sentiment à Abuja? Alors, je crois qu'on a quelques petits problèmes de communication avec Anne. On va essayer de régler. Mais Anne, si vous m'entendez, je vous demandais quel est le sentiment ce soir à Abuja? Et vous avez été aussi dans d'autres endroits. Qu'est-ce que les gens disent à propos de cet accord?
Mais les gens, ils attendent toujours. Je pense que les gens, ils étaient toujours sceptiques dès que ça a été annoncé, mais même maintenant, on a attendu une semaine, on n'a rien vu. Parce que les gens, ils commencent à être un peu découragés, ils attendent les résultats.
Alors, je m'excuse évidemment auprès de nos téléspectateurs, auditeurs, parce que, bon, c'est l'Internet et malheureusement, il y a des petits pépins. Nous sommes en direct, donc ce sont les aléas du direct, comme on dit, et toutes mes excuses. Alors, Léo, au cas où l'accord aboutit à du concret, c'est-à-dire un arrêt total des combats et la libération des otages, que va-t-il représenter pour le Nigeria ?
Ce n'est pas seulement pour le Nigeria, c'est pour toute la région, quoi, de l'Afrique de l'Ouest. Ça doit être du pays. On va trouver beaucoup des affaires économiques. Les gens pourraient être... Donc, chaque part de la région de l'Afrique de l'Ouest. Et aussi, bon, on a déjà tué beaucoup de hommes, non? Donc, c'est pas tellement difficile de voir ce qui va passer.
Ouais. Et Anne, la même question à vous. Et vous êtes évidemment au Nigeria. Le thème de cette émission, c'est cet accord entre doute et espoir. Et j'imagine que les Nigérians, évidemment, quand la nouvelle est tombée, beaucoup de Nigérians avaient beaucoup d'espoir, n'est-ce pas? Mais en même temps, comme certains le disent, Boko Haram, beaucoup de doutes. Est-ce que c'est ça que vous entendez là-bas?
Il s'agit beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce qui va se passer avec tout le terrain, tous les villages, toutes les villes que Boko Haram a pris?
Malheureusement, l'Internet fait pas mal, fait des siennes ce soir. Je suis vraiment désolé. Et donc, tout à l'heure, en fait, en début d'émission, Léo, vous disiez que les membres de Boko Haram ne peuvent pas faire confiance au gouvernement nigérian. Mais en même temps, cette question que moi, je voulais poser, peut-on faire confiance à Boko Haram qui parle d'accord? C'est un groupe terroriste. Qui va faire confiance à Boko Haram?
Bon, ça, c'est difficile à dire, mais si on a déjà engagé en guerre et si on cherche de la paix, il faut causer, non? Il faut discuter avec eux. Ouais. Mais tu vois, Boko Haram...
Mais les gens vous disent que ce sont des terroristes.
Oui.
Comment le gouvernement nigérian peut négocier avec...
Avec les terroristes.
Oui.
Bon, on a besoin de Sophie, de Chibok, non? Et on a aussi besoin de pays, dans le pays, non? Donc c'est pourquoi, je crois, c'est pourquoi on dit ça maintenant. Mm-hmm. Oui.
Et donc, on le disait tout à l'heure, on va le rappeler, donc les négociations, d'après vos informations, se poursuivent à N'Djamena?
Oui. Mm-hmm. C'est ça que Oumar, notre correspondant à Abuja, nous a dit maintenant. On poursuit ça vendredi et après ça, lundi. Ouais. Avec le Camerounien, Chadien et le Nigérien.
D'accord.
Ouais.
Mais pourquoi à ce moment, la semaine dernière, certains parlaient d'Arabie Saoudite? Est-ce que c'était ce pays a été évoqué? Pourquoi? Et puis, bon, on a appris que, en fait, les pourparlers ne se tenaient pas en Arabie Saoudite.
Oui, parce que tu vois, il y a beaucoup de factions, quoi, dans les Boko Haram.
D'accord.
C'est un terrorisme, c'est une organisation terrorisme. Et ici, il y a des islams là-bas. Donc, il y a des différences religieuses. Mm-hmm. Comme ça, oui, on peut trouver beaucoup de différences, non?
Voilà, ben, ouais. Léo, merci. Voilà, point final à ce Washington Forum. Merci à nos invités, le professeur Houdou Abdoulaye Ayouba, la correspondante de la VOA Anlouk. Tous deux étaient en direct du Nigeria. Et Léo Keyen, chef du service à Oussa de la VOA, à mes côtés sur ce plateau. Un petit clin d'œil à nos amis et confrères de B1 TV, notre nouvelle télépartenaire au Congo-Kinshasa. Merci de nous faire confiance et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA, partout où vous êtes. Merci de nous avoir accueillis. Au revoir, take care.